Heureuse révolte. Une balade radiophonique. Heureuse révolte sur RDOI. Sur la route, au hasard, quelque part, un train part. Ne plus avoir peur de la mort. Pardon, raconte-moi, toi, au hasard, quelque part, ce qui te rend plus fort, 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 ce qui te rend plus fort.
Il serait temps de s'y mettre.
Rendez-vous, je m'étais dit que j'aimais bien rester anonyme et j'avoue que j'aime bien cette question-là, mais voilà. C'est
alors,
intéressant comme...
Est-ce qu'on cache ton prénom ou est-ce qu'on le dit? Est-ce que les auditeurs de la radio RDOI pourront connaître ton prénom?
Moi, j'aimais bien l'idée que non, en fait.
Ils ne connaissent pas ton prénom?
Moi.
Quel prénom tu te donnerais?
Moi, j'ai bien aimé comment tu m'as défini sur le...
La jeune femme à la boutonnière. Non, la jeune femme... la jeune femme fleur à la boutonnière.
C'est ça. Je trouvais ça très très joli. Je me suis dit, ok, ça me va. Mm-mm.
Tu n'avais pas de fleur à la boutonnière?
Bah, je sais plus.
Vous vous souvenez de cette jeune femme fleur à la boutonnière? Je l'avais rencontrée à Pôle emploi, un jour de vent et de froid. Nous nous étions réfugiés dans un café, à l'étage. Qui es-tu? Je lui avais demandé. Que sommes-nous? Je m'étais demandé, là, à cet instant, dans ce café, sur cette vaste planète. Qui suis-je derrière mon micro? Que serai-je demain? Comment savoir percer le mystère d'une vie humaine? D'une vie croisée à l'instant même de la seconde de cette rencontre, de notre rencontre. Un pas après l'autre, un pas en avant, un pas sur le côté. Là, dans ce café, j'ai pu enregistrer à tout jamais ces secondes qui pourraient être éternité pour ne rien oublier. Les rêves, les bonheurs, les révoltes de celle qui a bien voulu me confier un peu de ses secrets. Et puis dans la voiture aussi qui nous a ramenés, nous avons continué à converser. J'ai tout enregistré. Et puis enfin, jusque chez moi, elle est venue pour continuer à me parler. J'ai tout enregistré. Un pas vers toi, un pas vers moi. Un bien joli pas de danse, nous avons engagé. Danser, marcher sur un chemin un jour de printemps, faire de ces paroles, de ces mots, des sons, des bruits du monde et de la vie, faire comme un bouquet de fleurs, se mettre dans la poche des cailloux brillants, des fossiles datant de millénaires. S'allonger sous un arbre, écouter le ciel, chercher les mystères. tenir ce micro dérisoire quand le monde gronde, crie de rage et que les bombes des marchands d'armes tombent, que Jacques-Joseph Victor dort à tout jamais. Qu'un joli petit gars, ami, se bat pour rester debout. Que la police armée, maintenant qu'il n'y aura plus d'aéroport, piétine les prairies et les forêts et les bocages, peuplés de désirs et de vie. Que les étendards se dressent là où convergent les luttes et les espoirs. Que le cerisier du jardin est en fleur, même s'il avait l'air presque mort. Que mon ami de Marseille attend pour vivre le foie en bonne santé qu'un accidenté aura bien voulu donner. Que les infirmiers et infirmières de cet hôpital, justement, sont en grève parce que leurs conditions de travail sont devenues insupportables. Non, non, je vais bien, ne t'inquiète pas. Ce midi, j'ai mangé équilibré, j'ai arrêté de fumer. Il y a mon ordi qui bug un peu, mais ça devrait aller. Le chat ronronne sur le canapé. Et le petit bouton que j'avais, tu sais, en fait, c'est juste une piqûre d'araignée. Je crois. C'est le printemps. J'ai quand même fait du feu dans la cheminée et des rimes en haie. Oui, maintenant je vous laisse l'écouter. Et suivre pas à pas le fil de sa vie, comme autant de rencontres, de paroles échangées et de fragilités qui sont bien là notre force. Voilà, qui es-tu ?
Qui je suis ? Je suis une jeune femme d'un peu plus de 30 ans qui exerce, vit depuis quelques années dans le Diwa. Comment me définir ? J'ai multiples casquettes et en même temps qui sont tout à fait liées dans ma pratique professionnelle, puisque c'était une des premières questions sur lesquelles on s'est rencontrés, c'est la question du travail. Voilà, donc je t'avais expliqué que je suis de formation sociale, animation, éducation, éducation populaire, et qu'en arrivant dans le secteur du DIY, j'ai ouvert un peu mon champ d'action et je me suis formée dans la question de l'éco-construction, les enduits. Je suis venue ici pour une formation qui donne donc un qualificatif d'ouvrier de la chaux dans le bâtiment. Ça, c'est un équivalent CAP et ce qui permet aussi de construire, de te faire valoir en fait et de monter une entreprise à la suite de ça si tu obtiens ton diplôme.
Qui es-tu ? Qui es-tu ? Tu peux me le dire, tu peux le crier, tu peux le chanter, tu peux le murmurer, tu peux le hurler. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ?
Que tu le redises comme ça, comme avec d'autres mots. Comme ça vient.
D'accord.
Une fois, comme ça, comme si.
Sans y réfléchir ?
Sans y réfléchir.
Ah bah, sans y réfléchir, je suis une femme qui vit et qui multiplie les expériences de la vie. Et qui laisse venir aussi ce qui peut arriver. Et voilà, je sais pas trop en fait. C'est marrant comme question reposée, tu... On est plein de choses et c'est super difficile de répondre à cette question parce que ça paraît presque limitant de dire qui tu es à ce moment-là parce que effectivement tu me la poses maintenant, tu me la poses en ce moment, c'est une autre réponse. Mais c'est vaste comme question qui en est, quoi. Et parfois, oui, quand on se rencontre avec des personnes, tu sais, quand, en fait, t'apprends qui je suis à force de passer du temps avec moi, en fait. Et j'apprends qui tu es parce qu'on passe du temps ensemble. Là, on va se revoir deux fois, tu vas réussir à plus me définir. Moi, pareil. Et bien souvent, quand on rencontre quelqu'un sur un petit temps et qu'on nous pose des questions comme ça, c'est un peu comme s'il y avait besoin de se mettre en boîte, tu vois. Ah bah, c'est bon.
Thank you.
avant d'arriver dans le Diwa, j'étais en Maine-et-Loire. J'ai expérimenté une vie assez... qu'on peut rentrer dans certaines cases, tu vois. J'avais un travail à temps plein.
Alors, quel travail ?
J'avais un travail à temps plein d'éducatrice, une maison, un jardin, des moutons, un mec, un espèce de package de dingue. Genre, waouh, c'est super. Et bon, après, j'y ai vécu des très belles expériences, des très belles rencontres, des liens que je garde toujours aujourd'hui. Et parfois, dans la vie, on a des éléments qui sont déterminants. Enfin, en tout cas, moi, je le prends comme ça. Et là, pour le coup, pour moi, ça a été une rupture. Il y a une rupture qui a déterminé une ouverture. Donc, une rupture de couple. Et cette rupture de couple m'a fait rompre avec plein d'autres choses. Un territoire que j'adorais, mais en même temps, j'arrivais au bout d'une certaine expérience aussi. Je le sentais bien. J'ai vécu, quand j'avais un temps plein professionnel, j'ai vécu dans un domaine qui, finalement, m'épanouissait pas complètement sur le job que j'avais.
Alors, c'était quoi ?
Parce que là, j'étais en coordination d'équipe dans un UPHV. J'ai bossé comme ça, unité pour personnes handicapées vieillissantes. En fait, j'ai voulu vraiment m'essayer consciemment, tu vois, c'était pas très très loin de la maison que j'avais trouvée, ça me permettait d'avoir des horaires de journée, wow. Alors que je faisais que des horaires décalés quand je bossais avec les ados, la plupart du temps, ça a été mon expérience. Je me suis dit, je vais essayer ça, en fait, c'est intéressant, et puis j'avais envie de faire tomber plein de trucs autour de la question du vieillissement, de comment notre société la prend en compte. Il y avait plein de choses autour de ça, en fait, et voilà, bon, bah, j'ai exercé des choses, moi, qui m'ont pas... donner envie de continuer.
Tu as exercé des choses, ça veut dire quoi ?
Déjà, de la coordination d'équipe, un secteur professionnel qui manque de valeur, en fait, hein, qui est structuré d'une certaine manière et qui fait que, voilà, mais je pense que ce que je vais dire, voilà, le vieillissement en France, comment il est traité, c'est pas que mon point de vue qui dit qu'il y a un problème, quoi. Tout le monde en parle. En ce moment, on voit aussi toutes les infirmières qui commencent à se mobiliser, tous les personnels de maisons de retraite, par exemple. Et moi, mes souvenirs premiers quand je suis arrivée, c'est vraiment, je suis arrivée dans une équipe et les premières fois, ce que j'entendais, des collègues que je devais coordonner, tu vois, où moi je me disais, bon, il va falloir que je soutienne l'équipe, qu'on crée des choses ensemble. Les premières phrases étaient, moi, je suis complètement bloquée ici, ils m'ont eu, j'ai signé un CDI, voilà. Donc je comprends qu'en gros, elles ne sont pas forcément épanouies, tu vois, dans leur exercice professionnel, hein. Donc ça, je le découvre, tu vois, je me dis, mince, alors au début, tu te dis forcément, on est libre et tout, mais en fait, on n'est pas, effectivement, pas toujours libre. Des fois, on choisit un poste parce qu'on a besoin de financer sa vie. Enfin bon, je ne connaissais pas tous leurs détails de leur vie, je ne leur ai pas posé toutes ces questions. Hein. Mais j'ai observé ça. J'ai observé aussi, la souffrance des professionnels, un peu speedée, tu vois, qui en même temps... sont dans des positions assez contre, finalement. Et
contre
les directions, contre ce qui est mis en place. Et où, effectivement, oui, c'est assez complexe, en fait, à définir. En parlant, là, je me rends compte que c'est assez complexe parce qu'il y a plein de niveaux. Et c'est ce que je disais, c'est que finalement, la prise en charge globale des personnes vieillissantes, je crois qu'il y a peu de fric insufflé, il y a peu de questionnements insufflés. C'est souvent, en fait, des professionnels qui sont embauchés, qui sont proches, tu vois, géographiquement.
D'accord.
Mais qui n'ont pas toujours les formations, parfois qu'en ont. Bon, au final de cette expérience, moi, ce secteur-là ne me passionne pas. Je suis contente de l'avoir vécu, d'y être allée. Je suis contente d'avoir compris ce que c'était aujourd'hui la coordination, les gens qu'on veut mettre en coordination sans les former. Ou les éduxpés qu'on veut passer en coordination, enfin, à qui on charge de plus en plus de responsabilités sans avoir les compétences pour. Je suis contente d'avoir expérimenté ça parce que je me rends compte que c'est pas bon, quoi. Tu vois, je pourrais pas du tout dire que j'étais une super coordinatrice, quoi. Et je repars vers du réseau, en fait. À l'époque, là où je vivais, j'avais une voisine. Plusieurs voisines, très rigolo. Une rue, on est quatre à travailler dans le secteur social, quoi. Un tout petit village perdu dans le Maine-et-Loire, une voisine psy, deux, une voisine éduque de jeunes enfants, une autre éduque, et moi qui arrive en tant qu'éduque. Très rigolo. Et là, il y a une collègue avec qui je discute du fait que, bon, bah, j'ai terminé ce poste. Bien, mais... ok, donne-moi ton CV. Je crois qu'ils recrutent quand même au foyer ouvert avec l'ASEA. Et puis elle, c'était une voisine à l'époque, si on n'est plus voisine, mais toujours amie, bien militante, tu vois, fille de coco sûrement, et avec des idées. Et je me dis, oh, ok, ouais, bah écoute, très bien, ouais, je vais te donner mon CV, pourquoi pas, quoi. Et là, je mets un pied dans l'ASEA, l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, voilà. Et je suis ravie parce que... je tombe vraiment sur des fonctionnements qui, aujourd'hui, on pourrait penser que c'est un peu dinosaure, tu vois, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, mais des équipes qui sont engagées, qui défendent les valeurs professionnelles, au-delà de... qui ne défendent pas forcément leurs valeurs individuelles, tu vois, enfin, pas à leur petit niveau, c'est tout le monde, quoi. Et un fonctionnement pensé, tu vois, un foyer en plein centre-ville avec qui accueille à la fois PJJ et donc Protection Judiciaire de la Jeunesse, donc... des jeunes qui ont pu commettre délits ou crimes, etc. Et en tout petit partie. Et d'autres jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc, ils sont vraiment sur le... Mais ils sont tous sur le versant de la protection. Et là, tu vois vraiment que c'est, qu'il y a un vrai projet de service, que la relation est vraiment le support à toute démarche éducative. Et voilà, donc j'ai bossé dans ces foyers. Et là... ouais, c'était très chouette. Tout est un peu outil, mais en même temps pas chargé pour le jeune, tu vois. Avec beaucoup de liberté, finalement, alors que c'est des jeunes qu'on suit. Et que, tu vois, dans des foyers, quand t'es avec des ados, il peut y avoir vite le schéma du « oui, à quelle heure tu vas sortir ?» Beaucoup de, tu sais, de cadres qui peut être lourd dans leur situation. Moi, je trouvais ça très chouette. Mais par contre, là, ça t'oblige à être vraiment sur le travail de la relation et de tisser la relation. Parce que si tu tisses pas la relation, là, pour le coup, l'outil n'a pas beaucoup de sens. Le jeune peut passer à travers et... tu vois qu'il s'y passe peu de choses, en fait. Donc très, 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 très chouette, toi. Ouais. Enfin, tu vois, être avec le jeune, c'est des exercices qu'après, du coup, tu retravailles en équipe. Donc, dans tous les temps de réunion, dans les temps d'analyse institutionnelle, d'accompagnement, enfin, tu sais, je perds même les mots, tu vois, à force, il y en a tellement d'analyse de la pratique, voilà. Et voilà, être capable aussi de regarder ce qui se met en jeu dans la relation. À la suite de cette expérience, moi, donc je vis dans ma vie personnelle une rupture et en même temps arrive dans le domaine professionnel une grosse coupure de budget pour l'ASEA, cette fameuse association. Voilà, des professionnels qui, même s'ils sont militants, sont aussi aux prises de leurs propres problématiques. Je vais garder mon job. Et puis tu vois, ça sentait déjà la révolte, quoi. Merde, on en a plein des jeunes qui sont là en train d'attendre, en fait. Et là, on coupe des budgets. C'est quoi, comment on va faire, quoi? Comment on va faire pour les accompagner encore avec autant de valeur? Donc moi, je suis à ce moment-là de ma vie avec cette rupture et ça. Et moi, j'ai bien conscience qu'en plus, j'arrive après tout le monde. Donc moi, en fait, je vais vivre d'autres expériences. Et là, je me dis, j'en suis là. Je me souviens bien, j'avais pris un espèce de cahier de route et je m'étais dit, je vais prendre un mois pour moi. Je l'avais appelé comme ça, le mois pour moi. Donc, dans le mois pour moi, c'est me retrouver moi. Où est-ce que j'en suis? Donc, me retrouver moi, c'est partir sur la route, aller voir les amis en France, les gens proches, les gens avec qui tu as des relations qui te soutiennent dans ta vie. Et en même temps, voir qu'est-ce que j'ai envie, du coup. Qu'est-ce que je veux expérimenter? Et à ce moment-là, donc j'ai plus rien à moi, tu vois, j'ai vidé mes affaires de la maison où je suis, je me trouve chez une amie avec qui on discute beaucoup aussi, elle me parle aussi parce qu'elle a construit sa propre maison en matériaux naturels. Mon ancien compagnon est quand même tailleur de pierre, donc si tu veux, je baignais quand même là-dedans. J'ai découvert aussi que mon grand-père était maçon. Enfin, tu vois, c'est marrant, je pense que tu tombes jamais par hasard quelque part. Et donc voilà, j'expérimente sur ce temps-là, je vois les copains, je viens même en Drôme, parce que en fait, je me retrouve, je mets même en Valais de Quint. Trop bizarre, tu vois, je connaissais pas du tout la Drôme. Donc je suis passée ici, tu vois. Et puis pendant ce temps-là, je pars aussi, je vais en voyage aussi, avec une amie au Maroc. Parce qu'en fait, bizarrement, je tombe sur mon passeport que j'avais fait 10 ans plus tôt, qui vient en expiration 4 mois plus tard. Et je me souviens que ce passeport, à l'époque, je l'avais fait pour aller au Maroc. Et je m'en suis jamais servi, je l'ai pas fait. Et là, tu vois, dans cette période-là, en plus, je me dis, mais mince, ma pote, elle y va en plus au Maroc, toute seule. Donc, je pars aussi au Maroc à ce moment-là. C'est quoi cette histoire que j'ai laissée de côté pendant 10 ans?
Marie, le contrat
un voyage magnifique. Franchement, en fait, on est tombé en plein Ramadan au Maroc. Alors, on pourrait te dire que c'est le moment où il faut pas voyager. Pouf. Ah bah, ça a été génial, quoi. Avec mon ami, tout a été que rencontre et que chez l'habitant. Et je me retrouve dans une ferme chez quelqu'un, et puis j'explique que j'avais déjà entendu parler des enduits et du tadlak, qui est un enduit spécifique au Maroc. Donc, je dis, voilà, c'est vrai que tu avec tout plein de cœur, sans projection concrète, je dis, oh, j'adorerais... J'adorerais apprendre ça, quoi, ce serait vraiment chouette. Et là, bah, le gars de la ferme, d'un seul coup, il me dit, bah, je sais que nous, on a un hammam ici. Donc le hammam, c'est le poulailler, en fait, quoi. Il me dit, c'est un vieux hammam. Si tu veux apprendre, moi, je te propose de refaire le vieux hammam, là, de le réhabiliter, et comme ça, tu te fais la main et t'apprends en même temps.
De retour du Maroc, jeune femme fleur à la boutonnière débute donc sa formation d'ouvrier de la chaux dans le bâtiment au Greta de Di, en se faisant la promesse de revenir un peu plus tard dans cette ferme pour rénover le hammam qui sert de poulailler.
Je m'engage dans cette formation avec vraiment l'ambition de me faire plaisir de autant donc cette histoire de Maroc, mais autant à l'explorer avec des professionnels, ce que je veux, quoi. Et une fois que je suis rentrée en formation, là, effectivement... La matière, après, je sais pas, hein, c'est aussi la personnalité, c'est aussi mon parcours, je sais pas, mais je me rendais compte aussi de ce que ça produisait chez moi, de travailler dans le bâtiment, de construire, de déconstruire, de faire tes propres mélanges. Il y a plein de choses fines qui sont hyper, hyper nourrissantes. Donc, il y avait
alors,
ça.
Qu'est-ce que ça provoque chez toi?
Je peux faire de mes mains, construire quelque chose en partant de rien et en utilisant que du matériau naturel. Et là, je découvre que pour moi, en fait, ça a le même sens qu'être éducatrice, en partie, tu vois. Je trouve les mêmes intérêts, en fait. C'est bizarre, mais parce que j'apprends aussi que tout ce qu'on va construire, c'est aussi pour le bien-être des personnes qui vont vivre dedans. C'est pour le bien-être global, en fait. Il y a vraiment... Il y a rien qui coince, quoi. Il n'y a rien où tu te dis, bon, ben, je dois convenir que je fais ça parce que je n'ai pas le choix ou j'en sais rien. Mais là, tout est relié et tout a du sens. Je me dis, c'est vraiment chouette pour moi de faire ça. Je sors pas de certaines de mes valeurs précédentes, quoi.
Si tu veux bien, je te fais écouter ce que tu m'avais dit dans le café.
Ça y est, je vais m'écouter. Quand tu travailles dans une maison, tu vois, c'est une habitation, tu fais la plupart du temps, je fais de la rénovation de bâtiments qui ont, tu vois, des siècles. Et la trace que tu laisses, elle va rester normalement longtemps aussi. Du coup, il y a aussi, au-delà de la technique, il y a aussi toute l'énergie que tu mets à l'intérieur et tout ce que la matière mémorise de ce que tu vis sur le chantier, tu vois, ce que tu fais. Et voilà pourquoi j'y trouve du sens par rapport à mon ancien métier d'éducatrice, tu vois. Pour moi, c'est... Voilà, ça a le même sens, ouais. Voilà, du coup, je travaille avec la chaux et la terre, produits naturels. Ce qui fait lien pour moi, en fait, dans cette reconversion, c'est qu'en fait, je prends toujours soin des gens. Je prends soin de leur habitat pour prendre soin d'eux. Ça, c'est une... J'essaye de refaire lien. Ouais, je suis en formation. En formation, je comprends le sens du matériau et je commence à comprendre que ça va avoir un impact sur les gens. Donc, pour moi, je ne suis pas tombée au hasard. Je suis au super bon endroit. Mais ça commence vraiment à prendre sens quand j'exerce moi-même. Et le fil rouge, ça reste quand même la rencontre humaine. Ça reste... Ouais, le fait de, je sais pas, après il y a plein de conscience, mais oui, d'avoir envie de prendre soin de l'autre. Et que ça me nourrit, ça me plaît, ça me paraît être utile pour les autres, pour moi, pour tout le monde en fait. Et c'est comme ça que j'ai conçu mon métier de maintenant dans le bâtiment. Parce que quand je me suis retrouvée dans une maison, mais moi je me dis, bon, bah, allez, pour que ça ait du sens, eh ben j'enlève ce qui craint, vraiment. Je recouvre pas, je choisirai pas cette option-là. Alors elle peut prendre plus de temps, elle peut coûter plus cher, et tu l'expliques, après tu... Voilà. Même si t'as des gens qui choisissent aussi là-dedans, c'est leur chantier. Mais voilà, je commence à être dans ces trucs-là. Et là, bah, je commence à péter des murs, à devoir enlever, à être dans quelque chose de crade, et ça j'avais compris à chaque fois que j'étais dedans, je faisais toujours des parallèles avec ce que ça apporte de déconstruire pour mieux construire. Et là je pensais à mon travail d'éduc, tu vois, parce que je me rendais compte moi aussi ce que ça... Alors c'est galère au début, tu doutes même à des moments, tu te dis mais putain, je suis grave de faire ça comme ça, en plus du coup c'est plus risqué, je suis obligée de faire des enduits différents sur ce mur, sur celui-là et sur l'autre, c'est même pas uniforme, ça veut dire que je peux pas faire un mélange de grandes quantités avec ça, mais je fais que des petites quantités, donc c'est forcément que manuel, enfin, tu complexifies les choses. Et en même temps, les complexifiant, ça leur donne plus de sens. Et il se passe plein de choses en toi. Parce que c'est quand tu le vis, et puis là c'est en plus tu le vois ce que tu mets en œuvre. Et à chaque fois, moi je peux pas m'empêcher de toujours faire le parallèle en me disant mais qu'est-ce que ça apprend sur soi aussi, et ce que ça développe. Et il y a plein de niveaux, tu vois. Juste après, tu as vécu tout ça, tu as déconstruit, tu es parti d'un truc dégueulasse et tu en as fait quelque chose de beau, quoi, et qui est sain. Alors là, t'as eu raison de complexifier, parce qu'en fait, le retour de ce que tu fais, c'est ok, quoi. Ça y est, t'es ok, t'as fini, tu vois. Wow. Et je pensais, tu sais, quand t'es en éduc, t'as jamais, quand tu travailles avec les jeunes, moi j'ai refait plein de rencontres dans ma vie, je sais pas ce qu'ils sont devenus, ces jeunes. Il y a eu des choses que j'ai dû leur dire dans leur vie, en plus dans des contextes particuliers, mais tu sais pas en fait. Hein. Tu sais pas comment ils ont grandi, comment ils se sont construits. T'espères avoir pu à un moment de leur vie leur amener quelque chose, tu vois, mais tu le vois pas. Et c'est vrai que quand t'es éduque, des fois c'est un peu c'est chouette, t'es nourri des relations, mais il y a une espèce de frustration aussi de pas toujours savoir en fait est-ce que t'as bien fait, est-ce que... Je crois que le travail mérite de redevenir une œuvre. Ouais, moi, je sais pas, mon travail fasse partie de ma vie, que ce soit pas quelque chose de découpé. Mais oui, en tout cas, il y a un processus, une œuvre à mettre en place pour que tu trouves du sens et que tu sois content de le réaliser, même s'il y a des difficultés dedans. Donc, y remettre du sens, c'est pour aller dans... Justement, pouvoir... pouvoir voir la dimension que ça peut avoir au-delà de toi. Si tu remets du sens et que tu réémancipes le travail, ben, en fait, on transmet autre chose. On transmet le fait que, tu réalises quelque chose dont tu peux parler, dont tu es content de parler, que
tu
es...
Tu vois, faire le montage de plusieurs heures d'enregistrement, c'est comme passer un moment de vie avec la personne. En écoutant, tu peux te faire à manger, trier tes papiers, boire un café, te gratter le nez, aller te promener, marcher. Tu peux même lire une BD.
Ça vaut le coup, en fait, de continuer à être dans des sphères à tout niveau et de pas être dans l'entre-soi et de continuer à aller au Pôle emploi et de comprendre comment ils vivent dans des quartiers et de comprendre comment machin, tu vois. C'est beau d'avoir des espaces comme nous, ce diwak est très...
Te coucher.
Le cerisier est en fleur.
Te coucher dans l'herbe verte d'un pré.
Mais c'est aussi bien de pas rester que là-dedans. Parce qu'en fait, on va desservir cet outil de masse. Et qu'on en a besoin de cet outil de masse pour réussir à avoir un impact. Et que ces convergences de lutte là se mettent ensemble, oui. Mais alors, il y a plus que raison. Et en fait, on se bat pas pour seulement les cheminots. On se bat pour vraiment une humanité, une masse qui a envie de bien vivre et qui a pas envie de subir le dictat d'une petite masse qui prend des choix qui sont déjà orientés pour eux-mêmes, presque.
C'est drôle. T'as vu, je fais encore des rimes en « et ». C'est pas fait exprès. Éternité. Je sais pas ce que ça veut dire.
Le cerisier est en fleur.
Et comme... Qu'est-ce qui crée chez toi une émotion? Qu'est-ce qui t'émeut?
Et comme... Poil au nez.
Oui, là, ce que je suis en train de vivre actuellement, ça m'émeut toujours, en fait. Tout ce que je vais partager avec quelqu'un, ça m'émeut, quoi. Et ouais, ça rebondit sur la question qui disait qu'est-ce qui te rend heureuse? Et ben ouais, d'être émue, ça me rend heureuse, enfin... D'être touchée, ça me rend heureuse. Et... Après, oui, il y a plein de choses dans la vie qui rendent heureux. T'amuser, machin, nanan. Oui, ça fait partie de la vie. Rigoler avec les gens, prendre les choses avec pas trop de sérieux, tu vois. Pas se prendre au sérieux aussi. Partager en profondeur.
Enivré.
Dans une certaine intimité, ça me rend heureuse. Même si ça bouscule un peu. Hein.
Enivré de joie.
Et ouais, et ça m'émeut de rencontrer aussi des gens qui vont être ce qu'ils sont, quoi. Je leur demande pas qu'ils correspondent à quelque chose, mais ils sont ce qu'ils sont. Et s'ils le sont vraiment, c'est émouvant. Et la dimension de partage rend heureux, je trouve. Même si tu peux être heureux tout seul aussi, hein. Clairement. Hein. Les moments de bonheur tout seul, tu te mets de la musique, t'es bien, tu danses, t'es heureux, tu sens, tu vois qu'il y a un truc, tu le partages pas à ce moment-là, mais tu nourris l'énergie, quoi. Tu nourris cette bonne énergie. Et transcender aussi les moments difficiles, ça rend heureux aussi. Les moments difficiles rendent heureux aussi. Mais au final, tu peux remercier d'avoir vécu des moments difficiles, parce que ces moments difficiles sont créatifs.
L'amour de la joie de l'amour.
Savoir décrypter tout ce qui est un peu fin, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est...
Décrypter le mystère de l'autre.
C'est hyper intéressant. Donc, je me souviens de cette gamine qui avait simplement comme communication, elle pouvait lever les bras et les descendre. Tu vois ? Et ils avaient réussi à mettre en place un peu un truc oui-non avec ça. Mais à côté de ça, elle avait des petits cris. Et au fil d'une semaine, t'arrives à comprendre que tel cri, quand t'es en train de l'accompagner dans une douche, c'est parce qu'elle a froid. Mais tu le vérifies, tu vois, t'es là, ah ouais, attends, elle dit pas la même chose, ah, est-ce que c'est parce que c'est ça? Et tu vois, tu essayes de décrypter le langage de l'autre aussi pour trouver un langage commun. Ouais.
Enivré.
Ouais. Et après, c'est vrai qu'une fois que t'as ce langage commun, que tu décryptes quelque chose qui est fin...
Enivré de joie.
Et bien là, après, t'avances ensemble. Parce que t'as un espèce de langage commun ou quelque chose qui fait que tu te comprends, et là, t'avances ensemble.
Et d'amour. C'est chouette.
Et en acceptant toutes les failles à l'intérieur de ça, tu vois. Parce que des fois, tu peux être en doute, et heureusement que t'es en doute, mais tu vas les vérifier, tu...
La joie de l'amour. L'amour de la joie. La joie dans l'amour.
Tiens, j'ai un doute là-dessus, mais est-ce que je me mets à nu? Est-ce que je dis ce doute-là? quitte à ce que ça mette en péril. Ben non, en fait, si j'exprime le doute, ça crée de la confiance. Parce que je me suis aussi permis d'exprimer le doute à l'intérieur de ça. Et j'avais une discussion avec un ami là, qui disait aussi, le gars de Chantilly, disait voilà, le doute est aussi vachement important. Il faut toujours se dire qu'on ne sait pas, en fait, finalement.
Liberté, sentir l'herbe coupée. Liberté, le bois brûlé. Respirer.
Et donc, tu es toujours en train de te poser la question. Là, moi, j'ai des doutes, mais c'est ce doute qui me crée. Tout à l'heure, je disais que j'avais une idée que j'avais envie d'essayer, que j'ai vue nulle part. Mais c'est parce que j'ai le doute de quelque chose que j'ai cette idée-là, en fait. Il y a une part de doute parce que je me rends bien compte que dans la mise en œuvre, il y a quelque chose qui n'est pas top. Donc ça me fait le doute, tu vois, je suis là genre, ah, putain, j'espère que ça va être bien. Je sais que ça va être bien, mais comment est-ce que je peux faire en sorte que ça soit vraiment, vraiment bien assuré, cette question-là? Bon, bah heureusement que j'ai ce doute-là, parce que j'aurais pas le doute, j'irais pas essayer de trouver une solution. Je prendrais juste le truc comme acquis. J'ai ce petit doute qui me met en tension suffisamment pour trouver, chercher une réponse. Le fait que, ouais, quand je fais ce mur-là, pour moi, je pense que tout ce qu'on vit au moment où on le fait, c'est inscrit. C'est inscrit quelque part, là, c'est inscrit dans cette maison. Donc, l'enduit que tu as devant toi, c'est pas que l'enduit réalisé. Toutes les imperfections visibles s'inscrivent dans quelque chose qui a pris du sens. Et là, bah ouais, c'est émouvant. Tu te dis, ah, devant un mur, et c'est là où tu as énormément de parallèles dans la construction. Moi, je trouve ça génial. Si tu te mets à nu dans tes questionnements, ça peut rendre fragile aussi.
Regarde. Un avion là-haut.
Et en même temps, cette fragilité est aussi une force, quoi.
American Airlines.
Après, on pourrait voir des oiseaux.
Un Boeing, peut-être. Dans quelques minutes, il sera au-dessus de l'océan. Tu te rends compte?
On pourrait voir les étangs, les rivières. Enfin, les rivières, ça doit... Non, je pense plus les étangs, mais les rivières, ça doit être plus dur.
Japan.
American Airlines.
Indian Airlines.
American Airlines. À 10 000 mètres, tu crois qu'il va où? Elle rêve de réécrire ses rêves. Tu crois qu'il va loin?
Rester allongé tout un après-midi dans l'air.
Dans un pays chaud.
Montagne.
Un avion passé.
Des petits villages.
Tu crois qu'on voit des humains?
Les humains, non. Je pense pas.
Dans le bruissement que le vent fait danser.
Un Airbus A380.
Qui es-tu? Je suis le vent.
Je suis le vent, dit l'enfant. Je joue pour toi dans les branches des arbres.
Dors
sous les cerisiers presque morts. Tu crois qu'il nous voit de là-haut? Il voit la maison?
Donc je réécris mes rêves, en fait. Donc je rêve de réécrire mes rêves.
Nous, on sait qu'il existe. Lui, pas.
Puis il y a une espèce de servante qui vient pour te proposer des choses à manger.
Tu viens ?
allégeance. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima. Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qu'il parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus. Qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas.
Tu as 7 ans, tu as 10 ans, tu as 20 ans. Je te regarde. Ce qui est bien avec la nuit maintenant, c'est que je pourrais te dire bonne nuit. Je pense à toi. Quand je voudrais. Tu as 7 ans, tu as 10 ans, tu as 20 ans. La joie de l'amour, l'amour de la joie dans l'amour.
Je sais pas comment te dire que c'est dur. Comment te dire que j'ai envie de crier et que je reste muet, comme sidéré. Que j'ai envie de péter les plombs, tout envoyer valser et partir vers nulle part, ou droit devant. Comme j'en ai marre de voir toujours la même femme, comme ses réactions sont prévisibles, comme je suis prévisible pour elle. Que c'est dur de se souvenir qu'avant, on se surprenait. Et même, on était surpris de se surprendre. Qu'on n'avait pas assez de temps, ni de moyens. Et de quelle manière tout ce désir désordonné laisse la place à une routine neurasthénique. Et qu'il y a déjà un bon moment que tu sais, que tu ne rêves plus. Même tout seul. Alors à deux. Comme ces enfants si jolis, si mignons, t'empêchent, avec toute leur dépendance et leur amour, de foutre le camp, ou même d'en parler. Que tout juste, si tu peux, y penser, sans avoir mauvaise conscience. Comment après quelques heures passées à être payé pour écouter les malheurs de pauvres gens, qui ont bien raison de n'avoir pas grand-chose à foutre de l'éducateur social, qui est bien sympa, mais qui sert à rien. Je prends le train avec une voisine qui m'explique que son sale petit gosse est surdoué et à quel point c'est une souffrance. Je file à la garderie et j'entends les miasmes des mioches qui me font chier pour avoir une biscotte avec du beurre et du lait chaud, mais pas trop, qui veulent que je joue à être le petit chat ou la maman pendant que je dois penser à faire la bouffe, le feu, la lessive et payer les factures. Voilà la mer. Je disparais instantanément du champ de vision des chers bambins. Non, je n'ai pas passé le balai, ni appelé le garagiste. Et oui, j'ai oublié de te dire que ta sœur a appelé. Ah, tu es fatiguée? Ta journée était dure? Oui, je t'écoute. Si, si, ça m'intéresse vachement l'histoire de ta collègue. Bla, bla, bla. Allez, tout le monde à table. Si, tu viens. Sinon, écoute-moi. Maintenant. Non, allez, ça suffit. On monte, allez. Les couches. Les dents. Pipi. Une histoire? Oui, je vais chercher ton doudou. Moi aussi, je t'aime. Si, tu dors. La lumière? Oui, ça vient. Allez, silence. Parler? Non. Un jeu? Bof. Ok, va pour un film. Y'a rien sur Arte? Comme les problèmes des autres sont au quotidien, au travail, à la maison, auprès des gens que je rencontre, et à quel point je me sens seul avec moi-même, enfermé dans un mutisme malsain. Silence, plus un bruit, le blabla, j'abandonne. Je me ferme ma gueule. Je fais des sudoku. C'est très bien les chiffres, comme ça, bien rangé, ça fait pas chier. Silence. Plus un bruit. Je ferme ma gueule. Plus un bruit. Blabla. Le blabla. Blabla 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 blabla. J'abandonne. Blabla 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 blabla. Silence. Le blabla. Le blabla.
J'abandonne.
J'abandonne.
Ferme ma gueule!
Rappelle-toi, ta fragilité est une force. Rappelle-toi de ça. La fragilité est une force.
J'ai toujours envie de te dire bonne nuit. Tu sais. Bonjour.
Je suis votre capitaine de bord. Je vais essayer de prendre les commandes. Ne vous inquiétez pas, tout devrait bien se passer.
Je suis votre capitaine de bord. Je vais essayer de prendre les commandes. Ne vous inquiétez pas, tout devrait bien se passer. Je répète. Je suis votre capitaine de bord. Je vais essayer de prendre les commandes. Tout devrait bien se passer.
Il s'agit du moment magique où l'on se perd à travers l'autre pour s'y retrouver. Il y va de la rencontre avec l'amour, où il est impossible de tricher. Les fausses rencontres sont vite déjouées par la vie. Encore faut-il assez d'amour pour rencontrer le bon hasard qui existe et inexiste et qui fait toujours sens.
C'était Heureuse Révolte, une émission bricolée par Vincent Oran, avec la participation de Christophe Guetta, de Pierre-Olivier, de Géraud et de Stéphane. Merci à Jeune Femme Fleur à la Boutonnière. Merci à toute l'équipe de Erdiwa. Merci à Franck. J'ai envie de dédier cette émission à Armel et à Agathe. Dans le cadre de cette émission, j'aimerais continuer à faire entendre les lettres que vous, auditeurs, aimeriez partager. Lettres de révolte, lettres d'amour, bonheur, rêve. Lettres de vie. Pour ce faire, vous pouvez me contacter à Heureuse Révolte, au pluriel tout attaché sans accent, @gmail.com. À bientôt.
Si en même temps tu t'es un peu, tu te moques de tout en fait, ça te fait chier quoi. Tu, c'est, je, pas, tu, t'as envie de rire, t'es pas énervé, mais tu fous tout en l'air quoi. Après, c'est un grand coup de pied dans la fourmilière quoi.